Les derniers dimanches, j'ai prêché sur le fait d'accepter le fait que nous sommes responsables de notre vie. Que, bien sûr, il y a des moments où nous sommes parfois victimes de certaines circonstances, de choix d'autrui, etc. Oui, mais néanmoins, nous sommes responsables de notre vie. Et puisqu'aujourd'hui, c'est un jour spécial, la fête des mères. Donc tout à l'heure, nous avons une belle surprise et nous aurons l'occasion de les bénir. Eh bien, je me suis dit que c'était peut-être... parce que je n'ai pas fini dans mon cœur avec cette histoire de responsabilité. Alors j'aimerais poursuivre aujourd'hui en parlant de la responsabilité d'être une mère. Et la Bible a pas mal de belles choses à dire. Donc, nous allons les entendre, nous allons en parler ensemble. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible dans 1 Timothée, au chapitre 5. Chapitre 5, verset 14. Alors ici, l'apôtre Paul donne quelques instructions à un jeune pasteur, Timothée. Il a lui-même formé dans le ministère et il est en train de lui donner des instructions concernant bien la manière de vivre notre vie chrétienne. Et il est évident que il s'adresse aux hommes, il s'adresse aux femmes. Dans ce cas particulier, dans ce verset-ci, il s'adresse aux femmes et à vrai dire, plus précisément, il s'adresse aux jeunes femmes qui sont déjà veuves. Mais le principe s'adresse à toutes les dames. Donc, nous allons ensemble lire. L'apôtre Paul dit « Je veux donc que les jeunes se marient. » Dans une autre version, il s'agit des jeunes veuves. « Qu'elles aient des enfants. » Qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc, ce qui veut dire que si une jeune femme, ne suit pas ce conseil, l'adversaire a un avis à dire. Et ensuite, ils disent quelques-unes se sont détournées de Satan, mais ça, c'est dans un contexte particulier. Donc, une autre version dit donc, je veux que les jeunes veuves se remarient. Qu'elles aient des enfants, dirigent leur maison et ne donnent aucune prise aux médisances de l'adversaire. Alors quand il est dit qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison, le verbe grec ici est assez intéressant pour le verbe diriger. Je sais que si je le dis en grec et je ne garantis pas la prononciation, je sais que vous allez tous être bénis, c'est oikodespoteo. Alors, on ne connaît pas le grec, mais on entend quand même un mot qui nous interpelle ici. Oiko, ça veut dire maison tout simplement. Mais oiko despoteo, qu'est-ce que l'on entend ici? Despote. Et ce mot-là, mon micro n'est pas fort ou c'est juste moi là? Ce mot veut dire maître et seigneur. C'est quelqu'un qui dit « c'est comme ça et c'est pas autrement ». Maintenant, messieurs, si vous vous demandez pourquoi à la maison votre femme a besoin de régner, eh bien c'est justement pour cela. Parce que la maison, c'est le royaume de la dame. Et tous les messieurs savent que si madame est contente à la maison parce qu'elle a les rideaux de la couleur qu'elle veut, tout le monde est content. C'est pas vrai, ça? Et que si une femme ne peut pas diriger sa maison, mais c'est pas simplement une question de rideau, si une femme ne peut pas avoir les choses comme elle veut à la maison, au travail, tu seras misérable. Et je parle au mari, là. Pourquoi? Parce qu'elle va te pourrir la vie, parce qu'elle n'est pas contente. La maison, c'est le domaine de la femme. D'ailleurs, si tu veux que ta femme soit contente, laisse-la choisir la cuisine qu'elle veut. C'est aussi simple que ça. Laisse-la faire ce qu'elle veut à la maison. Et Dieu est d'accord avec nous. Parce que par la bouche de Paul, il dit, Eh bien, en quelque sorte, si c'est un maître et un seigneur à la maison, c'est comme cela que ça doit être fait. Mais il y a encore autre chose que l'on veut voir. C'est, regardez avec moi dans Tite chapitre 2. Tu sais, la Bible parle de tous les sujets, hein. Et en cette occasion de fête des mères, on va continuer sur le sujet de la responsabilité, mais placé plutôt du côté des mamans. Dans Tite chapitre 2, il nous est dit au verset 4, on l'a le verset ? Alors, relis le verset 3, remonte au verset 3. Voilà. Il est dit, « Dis que les femmes âgées... » A-t-on quelques femmes âgées ici ? Non, personne, ça ne se voit pas. Si, à l'œil, ça ne se voit pas. Mais juste au cas où, il est dit, « Dis que les femmes âgées... » On parle de responsabilité. Hein, c'est-à-dire d'assumer la charge qui nous incombe. Et ici, c'est une charge que Dieu place sur certaines. Donc, « Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. » N'être ni médisante ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Alors, ici, la Bible dit eh bien, qu'il devrait y avoir un tutoring, on pourrait dire ça. Les femmes âgées devraient aider les plus jeunes à apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. Ce qui veut dire que aimer son mari et aimer ses enfants, c'est quelque chose qui ne vient pas quand on signe le contrat de mariage. C'est quelque chose qui s'apprend et qui ne devrait pas s'apprendre sur Internet en lisant des documents ou qui ne devrait pas s'apprendre par des livres, mais qui devrait s'apprendre même si on utilise des livres, en tout cas par la sagesse et l'expérience des femmes plus âgées. Et j'aurais tendance à dire, c'est valable pour les messieurs plus âgés avec les plus jeunes. C'est-à-dire que la société telle que Dieu la pense, eh bien, c'est la sagesse qui se transmet. C'est la connaissance qui se transmet. C'est les avantages de l'expérience qui se transmettent. Mais la Bible nous dit que non seulement les jeunes femmes doivent apprendre à aimer leur mari, mais la Bible nous dit même que les jeunes femmes doivent apprendre à aimer leurs enfants. Le fait que tu aies la capacité de donner naissance à un enfant ne veut pas dire que tu sauras l'aimer. Tu dis, oh, alors là, non, on parle de aimer tel que Dieu l'entend. Ben, évidemment que naturellement, une femme va aimer son enfant. C'est anormal. Il y a quelque chose de cassé chez une femme qui rejette son enfant quand il naît. Il y a quelque chose de cassé. Mais la Bible dit, plus loin encore, la Bible nous parle d'aimer, mais aimer tel que Dieu l'entend. Alors, ce serait peut-être une bonne question de dire comment Dieu veut-il que l'on aime les enfants. Proverbes chapitre 1, il nous est dit ici, au verset 8. Alors là, tout le monde va avoir le droit. Les mamans vont entendre la parole de Dieu pour elles. Les papas, au passage, mais l'accent n'est pas mis sur eux. Ceci dit, on peut quand même se servir au passage. Et les enfants, vous allez aussi profiter de ce message. Il est dit, mon enfant, verset 8, « Écoute les avertissements de ton père et ne repousse pas les enseignements de ta mère. » Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Et ici, le mot avertissement, instruction, c'est le même mot que discipline, correction et punition. Ça, c'est pour le père. Concernant les mamans, il est dit ne repousse pas les enseignements de ta mère. Et là, le mot qui est utilisé, c'est le mot Torah, le mot loi. Et quand chacun fait son travail, l'enfant est élevé et est aimé tel que Dieu le pense. Vois-tu, donner de la nourriture à ton enfant dans la pensée de Dieu, ça n'est pas aimer comme tu devrais aimer ton enfant. Dans la pensée de Dieu, envoyer ton enfant à l'école, ça n'est pas aimer comme lui l'entend. En revanche, prendre le soin de l'instruire, même parfois par la correction. Même, alors aujourd'hui, il y a de gros débats sur le fait que on ne peut plus corriger un enfant, du moins physiquement. La Bible parle, alors je ne vais pas rentrer dans le sujet, hein. La Bible nous dit que oui, une punition physique, la Bible parle du bâton. Une punition physique, si un enfant a mal fait et que là, il commence à y avoir un rapport de force entre le petit enfant et les parents, alors s'il n'est pas capable d'obéir à la voix, il va falloir que sa volonté plie à la force et ça, ça va être par un bâton. Une petite claque avec une cuillère en bois, par exemple, sur les fesses. Jamais avec les mains, parce que les mains servent à bénir. Et de toute façon, jamais au point où l'enfant est physiquement abusé. Ça, c'est bien évidemment que non. Mais la Bible enseigne, en revanche, que quand il y commence à y avoir un rapport de force entre l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant ne se plie pas à la voix, il ne se soumet pas à l'autorité dans la voix qu'il entend de ses parents, alors ça va être avec le bâton ou avec une ceinture et à la mesure de, évidemment, de l'âge de l'enfant, ça va de soi. Mais la Bible parle ici des enseignements que la mère doit procurer. Regarde avec moi dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Nous parlons de quoi ? Nous parlons des responsabilités que la maman a vis-à-vis de son enfant. Très souvent, on laisse à l'école la responsabilité d'élever les enfants. On laisse au gouvernement la responsabilité d'élever les enfants. On laisse à la nounou la responsabilité d'élever les enfants. Mais, chère maman, il y a une responsabilité que Dieu vous a confiée. Et ici, il dit, alors là, ce n'est pas spécifiquement à la maman, c'est valable pour les deux, mais la pensée que je veux retenir est celle-ci. Il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, instruis l'enfant, déjà ici, on sait que la maman a sa part à faire parce qu'il est question d'enseigner. Il est question d'instruire. Il est dit selon la voie que l'enfant doit suivre. C'est-à-dire que tu ne laisses pas l'enfant faire tout ce qu'il veut, aller où il veut, parler comme il veut, faire ce qu'il veut. La Bible dit il y a une voie qui doit suivre. C'est laquelle ? C'est la voie de la vie, au lieu qu'il s'engage sur la voie de la destruction et de la mort. Et il va savoir quelle voie emprunter, parce que ses parents, notamment la maman, va l'instruire dans cette voie. Et il est dit, quand il sera vieux, il se rappellera de cette instruction. Bien, il est possible qu'entre-temps, l'enfant fasse son propre choix, histoire de tester l'eau. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça doit arriver. Hein? Mais en tout cas, la Bible nous dit que les semences que tu as plantées dans la vie de ce jeune enfant, un jour, elles vont porter du fruit. Qui peut se rappeler de choses qu'on a entendues étant enfant et qui aujourd'hui nous dirigent en tant qu'adultes ? Très souvent, j'entends la voix de mon père ou de ma mère quand je fais des choses. Bonne fête, maman. Ben, merci, maman, aussi. Hein. L'histoire de la maison, tout ce qui est domestique, quelquefois, j'ai l'impression que ma mère fait le ménage avec moi. Même si elle vit en Bretagne. Mon père, sa phrase préférée, c'était « Quand tu commences, tu termines, et ce que tu fais, tu le fais bien. » Ah, ça m'a harcelé toute ma vie, ces phrases-là. On se rappelle tous. Et pourtant, sur le moment, je les ai rejetées. Mon père m'amenait avec moi et il me forçait presque à regarder comment il faisait du bœuf mironton. Ça ne m'intéressait pas, mais il y a quelque chose de la cuisine qui a été planté en moi. Alors, une autre version dit « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie ». C'est plus difficile quand ton enfant a 13 ans. Tu sais que selon la tradition juive, la parole de Dieu, à 13 ans, un enfant entre dans le monde adulte. Ton bébé de 16 ans, pour Dieu, il est déjà adulte. C'est un adulte. Peut-être que tu le traites comme un enfant, mais pour Dieu, c'est un adulte. C'est-à-dire qu'il commence à assumer les responsabilités de ses choix. Combien de parents n'assument pas les bêtises de leur enfant qui a 14 ans et l'enfant continue, les parents sont malheureux, l'enfant continue parce que à aucun moment de sa vie on lui a fait comprendre, on l'a instruit dans la voie qu'il doit suivre. Tu as des choix à faire et les choix que tu fais, tu en seras responsable, tu assumeras les conséquences. Une autre version, et je vais terminer celle-ci, donc donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie et il les conservera jusque dans sa vieillesse. Le but, c'est que l'enfant aille jusque dans sa vieillesse. Ce qui veut dire, y aurait-il des choses qui pourraient empêcher un enfant d'aller, on parle d'enfant, d'aller jusque dans sa vieillesse. Et on ne parle pas de la maladie, bien sûr. Donne un an à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années et il les gardera même dans sa vieillesse. Dès que l'enfant, la Bible nous dit que dès que l'enfant est là, on peut pratiquement savoir quelle tendance il va avoir. C'est étonnant, on a vu la petite Anna arriver parmi nous hein, quand Sarah a accouché il y a 8 mois. Waouh, cet enfant, aujourd'hui à 8 mois, mais on voit déjà qu'elle a un caractère fort, on le voit déjà depuis au moins 3 mois. Vous avez vu quand elle se lève, on voit que c'est une petite qui réfléchit. Elle vous regarde, elle ne sourit pas forcément. Elle réfléchit, après elle sourit. On peut déjà voir quelle direction elle va prendre. Il y a des bébés, tout ce qu'ils font, c'est ils dorment, c'est le bébé paisible. Elle est aussi paisible. Hein. Mais il y a des bébés, ils sont paisibles, ça va, c'est bien. On dit, oh, alors lui, dis donc, ça va être facile, facile. Il va suivre. Ça va être vraiment quelqu'un qui va suivre, il sera toujours content. D'autres, ça va être un leader. Bah, il faut instruire ses enfants. Et la Bible nous dit, tu commences dès ses premières années. Alors, Proverbe, on voit ici qu'il y a une voie qu'un enfant doit suivre et c'est notamment à sa maman de le mettre sur sa voie. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Ce verset s'adresse au père, mais il y a le principe qui est là. « Et vous, père, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude. » Tu sais, puisque on est sur le sujet, comment un enfant peut-il être irrité par un père? Parce que là, il est question des pères. C'est valable pour les mères, mais apparemment, là, pour les pères. C'est quand un enfant, son père lui dit de faire une chose et que lui fait une autre. Ça va irriter ton enfant. Ça jette la confusion. Et dans ce silence royal, on va continuer, dit, mais élevez-les. On est en train de se demander sur quelle voie une maman doit mettre son enfant. Il est dit, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Eh bien voilà, nous y sommes. Il est dit, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Pas simplement dans tout ce qui concerne les stratégies économiques. Pas simplement dans le fait comment de pourquoi il faut manger sainement. Quand il est temps d'arrêter de mettre du sel et quand il est temps d'arrêter de manger du sucre. Pas simplement, on ne doit pas simplement les instruire dans le domaine relationnel. Comment se faire des amis, comment les garder? Oui, toutes ces choses sont enseignées à l'enfant. Mais la Bible nous dit que la voie qu'il doit suivre, c'est selon le Seigneur. Tu veux le succès pour ton enfant, et je n'en doute pas. Mais le succès, le vrai succès se trouve en Dieu. Que ton enfant parvienne à la destinée que Dieu a prévue pour lui avant même que tu l'amènes sur cette terre. Avant même que tu le conçoives. Dieu avait un plan, Dieu avait une destinée. Alors, quand il est dit que ça doit être selon le Seigneur, une autre version dit « Et vous les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. » Et là, on a une idée que pour pouvoir donner des conseils qui viennent du Seigneur à votre enfant, il faut se donner les moyens de les recevoir soi-même. Une autre version dit, vous parents, ne révoltez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Là, qu'est-ce que l'on voit? Que doit apprendre un enfant? Parce que c'est quand même la question que l'on veut se poser. Regardez-moi dans le psaume 34. Psaume 34. Tu sais ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que si un enfant ne reçoit pas les conseils selon le Seigneur, plus tard, il fera honte à sa mère. Aujourd'hui, il y a des mamans qui souffrent. Je ne parle pas de celles qui ne connaissent pas le Seigneur elles-mêmes, mais des mamans qui connaissent le Seigneur et qui souffrent de voir que leurs enfants ont rejeté les conseils qui leur ont été donnés. Seulement, il y a de l'espérance parce que la Bible nous dit quand il sera vieux. Mais en attendant, il va se prendre les doigts dans la porte. Et les mamans aimeraient que leurs enfants n'aient pas à passer par des expériences difficiles. Ils aimeraient que les enfants reçoivent le conseil de Dieu, que les enfants reçoivent l'instruction selon Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit ceci. Oui, les mamans, c'est bien qu'elles amènent leurs enfants à l'église, dans l'église là où elles vont. Oui, ça c'est bien. Tant que l'enfant vit sous ton toit, tu peux l'obliger. C'est toi qui payes les factures, il vit sous ton toit, tu peux l'obliger. Tu dis, sous mon toit, tout le monde va à l'église. Normal, non? Maintenant. Un jour, le Seigneur m'a dit, oui, c'est bien que les mamans amènent leurs enfants à l'église. Mais, à vrai dire, ce qu'elles devraient faire, c'est amener leurs enfants dans l'esprit. Et ça, c'est différent. Comment est-ce que tu amènes ton enfant dans l'esprit? En priant avec lui. En adorant Dieu avec lui. Et en le rendant plus conscient des choses spirituelles. Beaucoup d'enfants vont à l'église avec leur maman, mais ne vont jamais dans l'esprit. La parole de Dieu, c'est pour la maman, c'est pas pour l'enfant. La parole de Dieu, c'est pour celui qui arrive dans ce monde, quel que soit son âge. Vous avez trouvé le psaume? Psaume 34, il est dit au verset 12, « Fils, venez m'écouter, je vous enseignerai. » Nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler que l'enfant, eh bien, doit marcher sur une voie. Vous rappelez que dans Deutéronome 30, nous connaissons ce verset. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie et la bénédiction. La mort et la malédiction. Choisis la vie. Et ce que Dieu veut pour ton enfant, c'est qu'il choisisse la voie de la vie, c'est-à-dire la voie de la bénédiction. Qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprend, parce qu'il marche avec Dieu. C'est une pensée nouvelle? Ça, c'est ce que Dieu veut. Tu veux que ton enfant réussisse, et tu fais bien. Mais Dieu veut encore plus. Or, le succès se trouve en Dieu. Amène-le vers Dieu. Aide-le à comprendre qui est Dieu. Dieu lui veut du bien. Aide-le à se saisir des promesses de Dieu. Apprends-lui à prier. Apprends-lui à parler la parole de Dieu. Mais ici, il est dit spécifiquement, « Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Et la Bible nous dit que la vraie sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que l'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. » Ça, c'est insensé. De dire « il n'y a point de Dieu ». à tes enfants, à tes petits-enfants, autant que peut se faire pour eux, eh bien, enseigne-leur à craindre Dieu. Plus tard, les choix qu'il fera à l'école, eh bien, seront guidés par cette crainte de Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Craindre Dieu veut dire avoir un profond respect pour Dieu. Et ça, maman, eh bien, tu apprends cela à tes enfants. Une autre version dit, venez mes enfants, écoutez-moi, je veux vous apprendre à honorer Dieu. Comment apprend-on à honorer Dieu? On apprend à mettre Dieu en premier dans toutes les décisions. On apprend à se tenir dans la présence de Dieu. On apprend à honorer sa parole. Plusieurs manières d'honorer Dieu. Mais il dit, je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Oui, tu veux que tes enfants réussissent et tu veux qu'ils apprennent un métier. Tu veux qu'ils apprennent à garder leurs amis. Tu veux qu'ils apprennent à se faire des amis. Tu veux qu'ils apprennent à être galants devant une dame ou à respecter ce qui les entoure. Oui, tu veux leur apprendre à faire le tri sélectif. Allez. Mais la meilleure chose que tu puisses leur apprendre, ils auront partout dans la vie si tu leur apprends à honorer Dieu. Regardez encore dans Deutéronome chapitre 5, verset 16, comment apprendre à honorer Dieu. Il est dit, respecte, une autre version, honore ton père et ta mère, comme je te l'ai ordonné, afin, et là, j'ai posé une question tout à l'heure, afin de jouir d'une vie longue et heureuse dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Comment vas-tu apprendre à ton enfant à honorer Dieu, à marcher dans la crainte de l'Éternel en l'apprenant à t'honorer toi? Ne permets pas à ton enfant de te parler n'importe comment. Ne permets pas que ton enfant prononce certains mots en ta présence. Ne permets pas que ton enfant te fasse un geste. Bah ! Non. Ne permets pas ces choses-là. La Bible dit que si tu apprends à ton enfant à t'honorer, si tu apprends à ton enfant à te respecter, je t'ai dit, ça c'est une chose, hein, on parle de la fête des mères, les pères, on parlait tout à l'heure de la correction. À la maison, c'était, je t'ai dit une fois de le faire, tu ne l'as pas fait. Je t'ai dit deux fois, je ne te le dirai pas trois. Devinez ce qui se passait au bout de trois. On n'avait plus le temps de réfléchir. On apprenait que ce chiffre 3 était un chiffre tragique. Tragique, d'autant plus quand on voyait la grandeur de la main. Tragique, on s'en rappelait de ce chiffre 3. Mais tu sais ce que tu apprends? Tu apprends à respecter. Tu apprends à respecter la parole. Et plus tard, ton enfant grandit. Et quand Dieu lui dit, tu sais, fais cela. Eh bien, il ne discute pas avec Dieu. Il a appris à respecter la parole d'un supérieur. Les parents, vous n'êtes pas les copains de vos enfants. Maman, vous n'êtes pas la copine de vos enfants. Et puisque je suis papa, vous n'êtes pas le pote de vos enfants. Vous ne l'êtes pas. Le père et la mère ont un rôle complètement différent dans la vie d'un individu. C'est un rôle qui est magnifique, magnifique. On apprend à l'enfant la crainte de l'Éternel. Comment? En l'aidant à apprendre ce que cela veut dire, d'honorer son père ou sa mère. Et la Bible nous dit, alors, il jouira du longue vie. Dans Josué chapitre 24, verset 15, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Et vous savez, je réalise que c'est bien pour les jeunes mamans qui sont au Seigneur et qui entendent cela et qui disent « Oh là là, ça c'est magnifique ». Je réalise aussi qu'il y a d'autres mamans qui ont vécu autrement, qui ont peut-être vécu sans Dieu ou qui n'ont pas entendu ces choses. Et tu dis « Mais tu sais, moi j'ai fait tout faux Peut-être que certains disent, et d'ailleurs je vois le résultat aujourd'hui. Peut-être qu'à cause de ce manque de respect, peut-être qu'il y a des enfants qui ne vous parlent plus. Peut-être qu'à cause de ce manque de respect, bien c'est la confusion et le chaos à la maison. Alors sachez une chose, c'est que Dieu est le Dieu qui donne la grâce. C'est pas le Dieu qui condamne, c'est un Dieu qui est aimant. Et peut-être que vous vous dites, tu sais, pasteur, moi, pour mes propres enfants, maintenant, c'est trop tard. Tu sais, tu auras toujours des enfants autour de toi. Est-ce que tu n'as pas pu investir dans tes enfants? Eh bien, tu pourras peut-être l'investir dans les enfants de quelqu'un d'autre, dans les enfants d'une nièce. Peut-être qu'il y a une voisine qui est devenue une bonne amie avec toi. Et tu vois que ses enfants lui parlent mal, peut-être que tu peux lui donner quelques conseils. On peut toujours investir. On peut toujours semer quand on veut. Tu peux demander à Dieu, dire « Seigneur, aide-moi, aide-moi mon Dieu à partager ces choses que j'ai apprises maintenant. » Et Dieu le fera. Vous savez, maman chrétienne, la place que vous avez sur cette terre, elle est énorme et elle a été donnée par Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui laisse les enfants aller dans la voie qu'ils doivent suivre. Et on se demande pourquoi il y a tant de rébellions. Pourquoi il y a tant de parents qui vieillissent seuls. Il faut se poser la question. Et il vaut mieux qu'on se pose la question en France en 2005. Il y a eu cette canicule, c'était en 2005 ou 2008 ? 3, ah ben voilà, allez. Vous voyez ce chiffre 3 là ? Il y a eu cette canicule et il y a plus de 10 000 personnes âgées qui sont décédées en un mois. On s'en rappelle tous. On a dit, oh, c'est à cause de la canicule. Non, c'est pas à cause de la canicule. Les Allemands ont eu la même canicule. Il n'y a pas eu autant de personnes âgées qui sont décédées. Les Anglais ont eu la même canicule. Les Espagnols, les Italiens. En France, on a agi différemment. Ou c'est à cause de l'État, oui. Parce que l'État devait s'assurer que chaque personne âgée ait une bouteille d'eau. Non, c'est pas le rôle de l'État. La raison pour laquelle il y a tant de personnes âgées qui sont décédées en France, c'est parce que les enfants n'étaient pas là pour s'occuper des personnes âgées. Tu dis, oui, mais il y avait des enfants qui étaient en vacances. Alors, dans ces cas-là, ils savent se servir du téléphone portable. Eh bien, qu'ils s'en servent, parce que là, c'était une bonne raison de le faire. Comment va maman? Comment va papa? Il n'y a personne, alors j'arrête mes vacances. Je retourne à la maison et je prends soin des miens. Ces personnes ne sont pas décédées à cause de la canicule. Très peu sont décédées à cause de la canicule. Si vous voulez savoir comment est notre société française, allons dans les maisons de retraite et nous verrons des tas de personnes qui vivent sans personne autour d'eux. Pas parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce que ces enfants ne reviennent pas vers eux. Et Dieu veut éviter ce genre de choses-là. Alors, comment le faire? Maman, eh bien, vous avez le rôle de diriger votre maison et... L'idée assez marrante, c'est à la maison, soyez un petit despote. C'est votre règne, c'est votre domaine. Si vous voulez que le tapis soit comme ça, il est comme cela. Et c'est bien. Si vous voulez que les enfants à table se tiennent comme cela, ils se tiennent comme cela. Josué chapitre 24, et on va terminer par ce verset. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Vous savez, à l'église, on réfléchit ensemble sur ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand la parole de Dieu est appliquée, alors les individus et les familles prospèrent. Dans Josué, écoutons ce que le Seigneur nous dit à travers la bouche de Josué. Il faut savoir que Josué était en train de reprendre le peuple d'Israël qui était tenté d'aller vers d'autres dieux et il les met au défi. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, c'est en Égypte, ou le dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et Josué a décidé, et ça, chaque parent doit arriver au stade où il se pose devant cette phrase-là. Et maman, vous aussi, vous devez vous poser la question. Josué, lui, a tranché la question. Il dit, oui, il y a des gens qui iront vers d'autres dieux. Certains iront et amèneront leurs enfants vers le dieu argent. D'autres amèneront leurs enfants vers le dieu réputation. D'autres amèneront leurs enfants vers le dieu égoïsme. Ce qui, la seule chose qui compte, c'est que je sois satisfait. Moi et moi et moi. D'autres amèneront leurs dieux vers d'autres amèneront leurs enfants vers leur dieu carrière, profession, carrière, carrière, carrière. Mais Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, ça c'est une clé. Ça c'est une clé. On parle de quoi ? Des mamans qui doivent apprendre à aimer leurs enfants. Pour Dieu, le signe qu'une maman aime ses enfants, c'est pas simplement le fait qu'elle lui donne à manger, parce qu'il n'y a pas besoin de Dieu pour cela. Il y a des tas de dames aujourd'hui qui donnent à manger à leurs enfants sans Dieu. Donc dans la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'aimer son enfant ? Aimer son enfant, c'est l'instruire au point que lui-même apprenne à servir l'Éternel. Tu sais, rien que sur cette phrase-là, et je ne vais pas passer une heure même si je pourrais, parce que je veux vous libérer pour que vous puissiez justement fêter, vous retrouver en famille et puis passer du temps avec des amis ou autres. Hein. Mais j'aimerais quand même que l'on parle de ce verbe. Maman, arrêtez de servir vos enfants. Ça va, 3 ans, 4 ans, mais il y a un moment où tu dois apprendre à ton enfant à servir. Pasteur, je pense qu'il est temps qu'on arrête là. Et... Non, c'est moi qui ai le micro, je termine. Oui, on pense tous servir l'Éternel. Oui. Les chrétiens, ils sont d'accord. Non, on va s'arrêter juste au verbe servir. Ma question est, est-ce que tu apprends à tes enfants à servir? Ou est-ce que tu leur fais croire qu'ils sont les petits rois de la maison? Bien sûr qu'ils sont traités comme des rois, dans le sens qu'on leur apprend leur dignité et tout ça. Mais est-ce que tu vas au-delà de cela et leur dire, dis petit roi, tu vas servir un peu tout le monde? Tu sais que le verbe servir implique le sacrifice? Au lieu d'être toujours le premier à se servir à table. Tu sais, à la maison, on nous a appris une chose. Quand d'abord tu te sers, tu ne fais pas le tour de l'assiette, du plat, tu ne fais pas tourner le plat pour avoir le meilleur morceau, tu prends celui qui est devant toi. Et si tu as le choix entre un gros morceau et un plus petit, tu laisses le plus gros à quelqu'un d'autre. Ça, c'est servir. Ça, c'est une manière d'apprendre aux enfants à servir. Et tu sais, là, comment vont-ils apprendre à servir l'Éternel? Ils vont apprendre à servir l'Éternel en apprenant, en pratiquant à la maison le service, en apprenant à servir ses parents, en apprenant à servir ses frères et sœurs. Comment? En voyant les parents servir la famille. On est à l'opposé de l'éducation de ce monde. Tu sais, Dieu, je pensais au service toute cette semaine. C'est un sujet qui revenait. Un peu comme dans la prophétie qu'on a entendue tout à l'heure. Et le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, tu sais, ça c'était sa réflexion. Dieu me dit, c'est pas moi qui dis à Dieu, c'est Dieu qui me dit. Dieu me dit, tu sais, il y a beaucoup qui veulent enseigner, mais il y en a peu qui veulent du ministère. Pourquoi ? Parce que le mot ministère en grec, c'est service. Beaucoup veulent enseigner, beaucoup veulent prophétiser, mais il y en a peu qui veulent du ministère. Si tu refuses de servir, tu refuses le ministère. Et on ferme la parenthèse. dans un silence divin, royal. On réfléchit. On réfléchit. On est en train, le Seigneur nous montre comment investir dans les plus jeunes de notre génération. Et la Bible dit ça, mesdames, vous qui commencez à prendre de l'âge, et c'est magnifique. Oh, aujourd'hui, on parle des rides, on est, oh, je veux pas de si. Oui, oui, d'accord, d'accord. Mais tu sais, l'âge a quelque chose de merveilleux. Personnellement, j'aimerais pas retourner en arrière. Parce qu'avec l'âge, normalement, vient la connaissance et la sagesse. Et c'est ça que nous sommes chargés de transmettre à ceux qui viennent de débarquer sur cette terre. Apprendre à ton enfant, les dames ont la responsabilité partagée, mais en tout cas je m'adresse aux dames ce matin, d'apprendre à leur enfant la crainte de l'Éternel, d'apprendre à respecter l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. La Bible nous dit que nous devons apprendre aux enfants à servir Dieu. Comment ? Pareil, en servant la famille dans laquelle il est placé. Et ça, ça n'est pas le prof qui est chargé de le faire. Ça n'est pas le gouvernement qui a cette responsabilité. C'est la maman. Du moins, je m'adresse à elle ce matin. Alors, il y a du boulot sur la planche. Il y a du boulot sur la planche, mais il y a une chose que l'on sait, c'est que tout cela ne se fait pas sans la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous continuons à chercher les Écritures ? Parce que nous voulons savoir ce qui est à notre disposition pour faire le travail. Dieu n'a pas l'intention. Tu sais, Ève a dit cette phrase-là. Première femme, premier enfant. Ève a dit, j'ai conçu un enfant avec l'aide de l'Éternel. J'ai enfanté avec l'aide de l'Éternel, exactement. C'est avec l'aide de l'Éternel que tu vas élever ton enfant. Tu dis, oui, mais tu sais, si je me suis trompée, bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. Tout le monde s'est trompé. Donc, ce que l'on peut faire, c'est apprendre et investir dans la vie des plus jeunes. Gloire à Dieu.